I'm going to step off the limb. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ah! La voix de Neil Armstrong, n'est-ce pas, mon cher Christian Page?
Oui, Bernard, je pense qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie cette célèbre déclaration de Neil Armstrong au moment où il posait le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle. On se rappelle, pour les plus vieux et pour ceux qui ont suivi ensuite parce que ça a été adapté au cinéma, c'est le débarquement de Neil Armstrong sur la Lune en 1969, mission Apollo 11, considéré encore aujourd'hui comme le plus grand exploit technologique de tous les temps. Et on se rappelle beaucoup de ceux qui ont marché sur la Lune, principalement Neil Armstrong et Buzz Aldrin, son compagnon.
Aldrin, qui est toujours vivant,
91 ans.
Oui.
Et là, malheureusement, hier est décédé Mike Collins. Mike Collins, c'est l'astronaute un peu fantôme de la mission Apollo 11. Il faut savoir que les équipages des missions Apollo étaient composés de 3 astronautes. 2 étaient les Moonwalkers, donc ceux qui allaient marcher sur la Lune, qui se posaient à bord du LEM lunaire, pendant que le 3e gravitait autour de la Lune à bord du vaisseau qu'on appelait le module de commande. Donc, ces astronautes ont souvent été considérés un peu comme simplement les chauffeurs de taxi, ceux qui amènent les hommes qui vont débarquer sur la Lune, même si en réalité leur rôle a été beaucoup plus complexe que ça. Et Mike Collins était le pilote du module de commande. Donc, alors que Armstrong et Aldrin débarquaient sur la Lune, Mike Collins se plaçait en orbite autour de la Lune et bien sûr attendait le retour de ses compagnons. Et sans lui, bien sûr, la mission aurait été impossible. Son travail était beaucoup plus complexe que le simple chauffeur de taxi, mais c'est vrai qu'il est toujours demeuré un peu dans l'ombre de ses compagnons.
Mais c'était un peu sa personnalité aussi à Collins. C'était un homme plus effacé. C'était pas un flamboyant. Aldrin est très flamboyant et très extroverti. Collins a toujours accepté, je dirais, son rôle avec beaucoup de modestie.
Oui, il a toujours prétendu que même s'il savait qu'il n'avait pas le meilleur fauteuil dans l'équipage d'Apollo 11, il était très content de la place qu'il avait tenue dans cette mission parce que, comme tu le mentionnes, ça correspondait à sa personnalité. Il a eu un rôle très effacé après la mission Apollo 11, après avoir quitté la NASA. Il est devenu responsable du Smithsonian, le musée de l'air et de l'espace à Washington. Et ensuite, assez rapidement, il s'est retiré. Il s'est consacré à ses hobbies personnels, la peinture, la musique et autres. C'est un homme, comme tu le mentionnes, très retiré, même s'il a vécu, bien sûr, cette épopée extraordinaire qui a été celle du premier alunissage. Et là, donc, il décède à l'âge de 90 ans. Comme tu l'as mentionné, il ne reste plus maintenant qu'un seul des membres de la mission Apollo 11 de vivant, soit Buzz Aldrin, 91 ans, qui, même s'il commence à avoir un peu des problèmes cognitifs, demeure quand même très, très actif. C'est un fervent militant pour le retour de l'homme sur la Lune et bien sûr sur Mars. Et il faut quand même le mentionner, il ne reste plus aujourd'hui que 4 astronautes qui ont marché sur la Lune. Donc, les Moonwalkers ne sont plus que 4 et Buzz Aldrin est l'un d'entre eux. Donc, je voulais absolument prendre quelques minutes pour souligner le décès de Mike Collins qui quand même s'il a eu un rôle effacé, comme je l'ai mentionné, a quand même contribué à cet événement qui est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité et peut-être le plus grand événement de l'histoire de l'univers parce que même si on croit que la vie pullule dans l'univers, rien ne prouve que cette vie a entraîné l'apparition de civilisations intelligentes. Et peut-être qu'aucune civilisation n'a jamais quitté son propre monde alors que nous l'avons fait.
Ah, c'est intéressant, oui.
C'était en 1969. Pour la première fois, des hommes marchaient sur un autre monde.
Et je vous rappelle, la première pièce qui a touché la Lune, la première pièce fabriquée par l'être humain qui a touché la Lune, c'était le pied du module LEM. Et ses pattes, les pattes du LEM ont été fabriqués par Hero DevTech, une compagnie québécoise ici à Longueuil. Il faut jamais l'oublier, c'est une grande fierté.
Oui, d'ailleurs, je
trouve content parfois à oublier. On est bon, nous autres, de se rappeler nos mauvais coups, mais on a fait quelques bons coups aussi. Et puis, Hero DevTech, ça reste aujourd'hui une très, très belle entreprise québécoise qui fabrique encore, d'ailleurs, notamment des trains d'atterrissage. Mais en fin des années 60, une entreprise québécoise qui convainc la NASA, donc, que c'est le bon modèle de patte que ça prend pour le LEM, puis la NASA l'adopte, et puis finalement, c'est ça, là, c'est quand même quelque chose.
Ouais, d'ailleurs, Bernard, petite anecdote à propos de ça. Quand les astronautes ont... En fait, ce que tu dis est vrai et pas tout à fait vrai. Parce que justement, par un aspect nationaliste, les Américains voulaient tellement pas que ce soit une pièce canadienne qui touche la surface de la Lune que juste sous la patte du LEM, on avait mis des petits aiguillons.
Tu me niaises.
Qui marquaient le contact avec le sol.
Tu me niaises.
Non, absolument.
C'est vrai ce que tu dis là?
Absolument. Donc, quand les aiguillons touchent la surface de la Lune,
ben,
les astronautes savent qu'il y a contact, et là, on dit, bon, ben, contact, touchdown, mais ces aiguillons, les Américains les avaient placés après coup, sur les pattes du LEM, pour s'assurer que ce soit les aiguillons qui touchent la surface du sol.
Ça s'appelle de la tricherie.
Absolument. Mais bon, mais de façon objective, effectivement, les pattes du LEM lunaire avaient été fabriquées par Héroux à Longueuil.
Absolument.
Et c'était tout à fait extraordinaire. C'est notre contribution. On a fait aussi le bras canadien. On a tendance à l'oublier. Le bras canadien qui a par Spar Aerospace, qui avait été installé à bord des navettes spatiales. On a quand même été des joueurs importants dans le programme spatial américain. Puis il faut s'en féliciter.
Oui. Et l'entreprise, d'ailleurs, qui a fabriqué le bras spatial ne s'appelle plus Spar Aerospace. Ça s'appelle maintenant, ça a un autre nom. Mais ils vont fabriquer des satellites, là. Ils vont fabriquer des satellites dans cette usine-là, enfin des pièces de satellites. Alors, on a des bons ingénieurs, puis on a des belles entreprises qui vont continuer donc à participer à toute l'exploration aérospatiale de l'avenir. Parle-nous de, c'est quoi ça, Alerte dans l'espace? Il y a déjà eu un programme qui s'appelait Alerte dans l'espace avec un espèce de robot dément, là, puis comment il s'appelait le chercheur, là, comment il s'appelait?
C'était Perdu dans l'espace.
Ah, c'était perdu, pardon.
Perdu dans l'espace, mais il y a eu effectivement une série britannique qui s'est appelée Alerte dans l'espace. En anglais, c'était UFO. Et donc, c'était une espèce des terriens qui avaient une base souterraine sous des studios de cinéma en Angleterre et qui surveillaient l'invasion des extraterrestres. Rappelle-toi, il y avait également une base sur la Lune et les employés, c'était des jeunes femmes qui étaient ravissantes. Elles avaient des cheveux bleus, mauves, de différentes couleurs.
Bon.
Ça avait marqué la fin des années 60, début des années 70. Mais là, pourquoi Alerte dans l'espace? Écoute, vendredi dernier, on le sait, Space Dragon 2, la capsule spatiale de SpaceX a envoyé 4 astronautes dans l'espace pour rejoindre la station spatiale internationale. Et 7 heures après le lancement, donc on est vendredi dernier, 7 heures après le lancement, alors que les astronautes se préparent à prendre un peu de repos, ils reçoivent une alerte qui ressemble à ceci.
For awareness, we have identified a late-breaking possible conjunction with a fairly close miss distance to Dragon. As such, we do need you to immediately proceed with suit donning and securing yourselves in seats. We will be erring on the side of caution to get you guys into a better configuration. The time of closest approach for this event is at 17:43.
Christian, il nous reste moins d'une minute, là?
C'était 20 minutes avant une possible collision avec un OVNI. Donc, les autorités qui surveillent l'espace ont informé le centre de SpaceX qu'il y avait un objet dans l'espace, classé comme non identifié, qui se dirigeait vers la capsule Crew Dragon. Donc, on a demandé aux astronautes de s'asseoir avec le casque, leur armachement, tout ça. Et éventuellement, bon, l'objet est passé à une vingtaine de kilomètres du vaisseau spatial. On croit qu'il s'agit d'un débris spatial. Hein. Il faut savoir qu'il y en a plus de 30 5000 qui représente un danger pour la navigation spatiale. Et on croit que c'est un débris spatial. Mais néanmoins, tu comprends que lorsque la nouvelle a été présentée sur les médias, les amateurs d'OVNI ont vite dit « Oh, voilà un OVNI, une menace dans l'espace. »
Christian,
oui.
C'est fini.
Ah ben.
On se reparle jeudi, mon gars. Merci, salut, bye.
Merci, salut.